Suivez Priorité Santé avec les sociétés Sunois Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Sunois Assurance. Sunois Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de l'équipe de Priorité Santé pour cette nouvelle saison de votre magazine sur RFI, retour en direct après la pause estivale. Aujourd'hui, pour cette reprise, à la veille du retour en classe pour de nombreux élèves, règne cette tension si particulière, propre à la rentrée, tension et parfois même stress auquel on associe généralement des réactions physiques, des effets qui peuvent se concentrer sur une partie du corps, crispation, tremblement, transpiration et au-delà, appréhension ou nervosité plus ou moins intense. Alors on pense donc souvent à des répercussions assez négatives, alors qu'on va le voir au cours de cette émission, il existe un stress positif et même nécessaire à distinguer donc de ce stress qui nous bouleverse, nous affaiblit et peut même nous rendre malade. Dans quelle situation connaît-on une montée de stress? Comment réagir face à certains facteurs déclenchants? Peut-on apprendre à tirer bénéfice du stress et à en limiter la toxicité? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans Priorité Santé avec nos invités qui vont répondre à vos questions en direct. Et avec nous en studio, celui qui nous a accompagnés pendant tous ces derniers mois, chaque vendredi pour un moment de détente et de relaxation, docteur Adrien Chaboch, bonjour.
Bonjour Caroline.
Alors désormais, les auditeurs connaissent bien votre voix, vous êtes psychothérapeute, praticien attaché au centre de traitement de la douleur Ambroise Paré, cofondateur du centre Vitruve à Paris, et vous avez signé, docteur Chaboch, l'ouvrage « Fatigue et si on apprenait à vraiment se reposer » aux éditions Flammarion Versilio. Tout à l'heure, nous retrouvons en ligne du Sénégal le docteur Akiwat Khan, psychiatre au CHU de Fan, neuroanatomiste et enseignante-chercheur à l'université Cheikh Diop de Dakar. Et puis en fin d'émission, on va parler avec le docteur Fabienne Cocher, présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire, de la mobilisation des pédiatres en cette veille de rentrée scolaire dont on parlait. Ils ont adressé une lettre ouverte pour que cette reprise de la classe se passe dans les meilleures conditions, dans le contexte sanitaire actuel.
Priorité santé sur RFI.
Alors le stress, tout le monde connaît ce mot, tout le monde en parle, sans forcément savoir ce qu'il y a en termes de santé, en termes médical, derrière l'expression. On va donc commencer, c'est un petit peu le béaba, docteur Adrien Chaboch, par un petit exercice, c'est classique, c'est la définition, pour comprendre tout de suite qu'il existe un bon et un mauvais stress.
Exactement, Caroline. Parce que quand on parle de stress, on admet implicitement qu'on se réfère à quelque chose de pathologique, de maladif ou bien de qui va nous embêter, nous gêner, provoquer des conséquences sur notre santé. Alors que le stress, il faut repartir de la définition simple. Un stress, ça va être quoi? Ça va être une réponse de l'organisme lorsqu'on est exposé à un stimuli qui va être considéré comme venant perturber un état d'équilibre de nous, de notre organisme, et qui nous amène à avoir une réaction. Donc en gros, c'est un stimuli extérieur qui va venir nous perturber. Pour comprendre ça, c'est-à-dire, on va partir de la base où notre organisme tend à une certaine homogénéité, à un état d'équilibre, pas trop de frustration, pas trop de contraintes, pas trop de stress organique, un équilibre d'énergie intérieure. Tout ce qui va venir perturber ça va représenter un stress. Mais rien ne présage de son caractère envahissant, maladif, etc. Un exemple tout simple. On est en pleine période, évidemment, de sujets d'actualité sur des virus. Notre système immunitaire n'a pas attendu le coronavirus pour être une machine à apprendre. On est en permanence stressé par des agents infectieux extérieurs, des virus, des bactéries. Et de ce fait, notre système immunitaire, il est stressé et il va apprendre. Il y a une réaction qui est physiologique et qui n'est pas consciente. On a d'autres réactions, par exemple. Une réaction physiologique consciente, c'est-à-dire du corps, et en plus on en a conscience. Pas comme les virus, on n'est pas en train de penser à nous protéger des virus. Bah, par exemple le sport. Le sport, je vais aller me stresser mes muscles qui vont entraîner un signal intérieur, il faut construire plus de muscles. Ou encore, un signal physiologique, mental et conscient, j'apprends, je suis en classe, ça me stresse, je ne sais pas, je ne sais pas comment réagir à cette situation, mais je vais engendrer, entraîner des processus d'apprentissage, des stratégies qui vont me faire m'adapter à cette situation, ce qui me satisfait.
Pour certains, ça permet de mobiliser les compétences, mais pour d'autres, ça peut constituer une source de blocage. On va en reparler tout à l'heure. En tout cas, on comprend bien cette notion d'adaptation. Maintenant, pour le grand public, quand on est stressé, on a les mains moites, on transpire. Comment ça se passe dans le corps? D'où vient justement cette relation entre l'événement, rencontrer quelqu'un qu'on n'avait pas prévu de voir, par exemple, et puis, par exemple, une situation très gênante, se mettre à transpirer abondamment?
Eh bien, les scientifiques qui ont étudié le stress, maintenant depuis plus d'un siècle, ont déterminé qu'on avait deux types de réactions. Un type de réaction non spécifique, c'est-à-dire que ça va toujours être la même réaction, quelle que soit la situation de stress, mais proportionnelle toujours à son intensité. Cette réaction-là, qu'est-ce qu'elle fait intervenir? Notre cerveau traite les informations. On identifie la situation consciemment ou inconsciemment, comme on l'a dit. Mais ça, qu'est-ce que ça va entraîner? Une réaction dans notre cerveau. Alors, il y a des structures comme le thalamus, l'amygdale, qui sont des structures liées aux émotions et aux peurs, à la défense, qui vont s'activer et dire « Ok, alors là, il faut qu'on change, il faut qu'on trouve quelque chose. » Qu'est-ce qui va prendre le relais? Ce sont des hormones, notamment des hormones qu'on connaît bien hein, dans le commun. La noradrénaline, l'adrénaline, le cortisol, ce sont trois hormones principales qui vont être sécrétées assez rapidement et qui ont quel effet? Eh bien, ça, ce sont les vestiges de notre évolution animale. C'est-à-dire, elles vont avoir pour effet de stimuler notre corps, de le préparer à une réponse, si ce n'est par le passé, à se défendre. Donc, on fait quoi? Eh bien, on envoie du sang là où les organes en ont besoin. Les muscles, les mains, on va évacuer de la chaleur. Le cerveau va modifier son comportement, va moins perfuser le ventre. Donc, on va avoir une fermeture du système viscéral. Par contre, on va attribuer beaucoup d'énergie, beaucoup de sang à tout ce qui nous permettrait de réagir. Sauf que quand on est, par exemple, en classe ou à faire une présentation dans une réunion professionnelle, il n'y a pas de prédateur, mais on réagit avec ces vestiges d'adaptation.
Et comment est-ce qu'on fait justement pour s'adapter au mieux? Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que certaines personnes, docteur Chaboch, sont particulièrement prédisposées pour faire face au stress? On va dire qu'il y a des personnes qui sont plus fragiles que d'autres devant le stress.
Oui, et ça, on est vraiment, il n'y a pas d'égalité stricte, parce que ça fait intervenir tellement de facteurs individuel, chacun va réagir avec ses outils, avec ses armes et avec son expérience. Alors on va se dire, oui, mais alors plus j'en bave, si vous me permettez l'expression, mieux je vais être, plus fort je vais être. Oui et non, parce que ça va dépendre aussi de nos ressources intérieures. On ne peut pas pousser toujours trop loin nos limites, c'est au risque d'arriver justement à un mécanisme d'épuisement qui est délétère à la fois pour le mental, à la fois pour nos organes.
Et justement, côté physique, quand ce stress est toxique, docteur Adrien Chaboch, on risque quoi? C'est quoi les maladies, les pathologies, simplement peut-être les troubles associés à ce trop de stress?
Essentiellement, ça va engendrer des réactions sur notre système hormonal, sur notre système nerveux et sur notre système cardiovasculaire. Ça, c'est les trois grands champs. Par exemple, prenons l'état d'un stress chronique. Nos hormones, noradrénaline, adrénaline, cortisol, dont on a parlé tout à l'heure, se déversent. Normalement, ça doit s'arrêter. Mais on est exposé encore à ce stress, on n'arrive pas à le réguler. La noradrénaline va avoir une action délétère sur l'hippocampe. C'est une petite partie du cerveau qu'on connaît un petit peu, de mieux en mieux, et qui a à voir avec la mémoire. Donc directement, on va avoir un impact sur la mémoire. Et on a des trous de mémoire, et on se rappelle moins et on apprend moins. Ce qui évidemment est stressant. Autre cause, sur le système cardiovasculaire, on va augmenter l'effort cardiovasculaire, parce que si vous êtes à devoir vous défendre contre un prédateur, sauf qu'il n'y en a pas, et en plus ça dure des mois, bah vous imaginez bien que votre cœur, lui, il va avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, une augmentation de l'hypertension artérielle, bref, on prédispose l'individu à un risque cardiovasculaire, des maladies comme l'infarctus, comme le cholestérol, le diabète, puisque aussi dans nos hormones, justement par le stress, on va augmenter la disponibilité du sucre qui va engorger et qu'on n'arrive plus à canaliser.
Docteur Chaboch, vous restez avec nous, on va tout de suite donner la parole aux auditeurs. Message enregistré, on va commencer par une question en direct.
Allô? Priorité santé. Sur RFI.
Et pour commencer, on prend la direction du Burkina Faso avec Sidiki qui est en ligne avec nous. Bonjour.
Oui, bonjour.
Sidiki, vous trouvez dans la ville de Samorogouane. Alors racontez-nous, à quel moment de votre vie, eh bien, vous êtes confronté à ce fameux stress?
Ok, merci. Moi, je suis dans un public, en classe, devant le professeur ou bien d'autres personnes, souvent même devant mes camarades. Je suis calme, je ressens la peur. Il y a beaucoup de soucis pour me participer aux activités collectives. Bon, souvent même, il y a des moments même, ça se manifeste par les tremblements.
Des tremblements. Est-ce que vous ressentez le même genre de réaction physique, par exemple, quand vous parlez à des personnes plus âgées, à des personnes qui ont des responsabilités, voire même à vos aînés dans la famille?
Oui, souvent.
Et vous avez essayé des trucs pour vous détendre, Sidiki, ou jusqu'à présent, vous n'avez rien trouvé comme solution?
Bon, je n'ai rien trouvé comme solution. Mais si je suis avec mes autres camarades, comme des amis, là, ça va un peu.
Avec vos camarades, ça se passe bien, avec les gens de votre âge, de votre génération, c'est bien. Mais c'est plus dur, en fait, avec toutes les personnes qui ont une autorité sur vous.
Oui, ça, je sens à ce niveau, vraiment.
Et vous êtes donc à la recherche de solutions, Sidiki. C'est bien ça, c'est pour ça qu'on se tourne vers le docteur Adrien Chaboch. Ce contexte, hein, Sidiki, qui est un jeune étudiant, ben, on va dire tout simplement qu'il est en situation de blocage quand il est en classe ou même à la maison par rapport aux hommes peut-être de la famille, peut-être même à certaines femmes. Est-ce que vous avez ce même stress avec les femmes qu'avec les hommes?
Oui, bon, souvent, avec les filles comme ça, c'est le même cas encore.
C'est le même cas encore. Donc, en fait, toutes les personnes qui ont un petit peu que vous ne connaissez pas, avec qui vous n'êtes pas familière, eh bien, vous vous sentez stressé. Qu'est-ce que vous pouvez dire à Sidiki, docteur Chaboch?
Sidiki, bonjour. Mais effectivement, vous nous montrez bien à quel point nos apprentissages peuvent nous gêner. Ça nous ramène à l'éducation. On peut se poser la question, quelle éducation avez-vous reçue? Quel contexte d'éducation? Est-ce qu'elle a été difficile, par exemple? Est-ce qu'elle a été très exigeante, par exemple? Et à chaque fois, si cela s'est produit, mais peut-être qu'on peut le supposer, dans votre enfance, dans votre adolescence, cela a créé des apprentissages, mais qui ont été marqués d'une difficulté. De ce fait, ça amène d'une timidité initiale à une inhibition, et de cette inhibition à un stress qui vous enlève vos ressources. Et ça ne m'étonne pas que finalement vous participiez de moins en moins, parce que d'un point de vue de votre adaptation, d'un point de vue vraiment, si on ne juge pas du tout, c'est la meilleure solution.
Pour se protéger.
Exactement. Mmh. Il vaut mieux avoir un effet neutre, je ne participe plus, plutôt que de prendre le risque d'être jugé, dévalorisé.
Comme on dit, on fait profil bas.
Exactement.
Sidiki, c'était sévère à la maison? Est-ce qu'il y avait beaucoup de punitions?
Allô?
Oui, est-ce que c'était sévère chez vous à la maison? Il y avait beaucoup de punitions en famille?
Non.
Non?
Non.
Et c'est quand vous êtes vraiment rentré à l'école que ça a commencé? Avant, c'était plus simple quand vous étiez enfant?
Oui, bon, j'ai remarqué ça quand j'ai commencé à étudier.
À sortir de la maison, à être moins sécurisé en dehors de la maison?
Oui, comme je vois maintenant, à mon âge, là, ça me dérange maintenant.
C'est aujourd'hui que vous êtes devenu un jeune homme que c'est plus compliqué. Qu'est-ce que vous pourriez dire, si trouver peut-être quelques pistes pour aller mieux pour Sidiki?
Il y a plusieurs choses à faire, Sidiki. La première chose, c'est est-ce qu'on pourrait essayer de mieux identifier cette peur? Parce que là, on est face à une peur globale. Voilà, c'est le rapport à l'autre, c'est l'autorité, c'est la réussite, mais on ne sait pas exactement. Est-ce que c'est le regard de l'autre qui vous fait peur? Est-ce que c'est le fait de vous tromper qui fait peur? Est-ce que c'est le fait d'atteindre un niveau qui fait peur? peurs. L'identification de ces peurs est très importante parce que ça vous permettra de mieux vous comprendre. Et en vous comprenant mieux, alors il y aura des alternatives, des solutions ou des aides qui peuvent venir. Alors d'une manière très générale, de vous détendre, évidemment, ça fait du bien, mais on n'y arrive pas dans ce type de situation. Alors il y a des aides, il y a des médicaments qui peuvent aider, certains, pas tous, à usage modéré, et ces médicaments sont là, je dirais, pour vous aider à passer un cap. Jamais pour être une solution durable, parce que on est certain que vous avez ces ressources en vous, Sidiki. Identifiez-les. Qu'est-ce que c'est que cette peur? Une fois qu'on a bien identifié le problème, on peut mieux y répondre.
Essayer de s'arrêter, prendre du temps pour s'arrêter et réfléchir sur le fond du problème. On vous remercie infiniment, hein, Sidiki, de nous avoir appelé du Burkina. Docteur Chaboch, après cet auditeur en direct, message WhatsApp de nos auditeurs, mode d'emploi. Hein. Comme d'habitude, vous nous joignez sur la page Facebook. On vous rappelle via WhatsApp, on vous donne la parole. Et l'on retrouve sans tarder justement un témoignage et une question avec Mamadou qui est en ligne de Côte d'Ivoire.
Bonjour Caroline, bonjour à votre invité, c'est Mamadou Diallo depuis Abidjan, j'ai 41 ans, je suis vraiment quelqu'un qui est beaucoup stressé dans la vie, presque tout me stresse, quand même j'ai des rendez-vous, même ça m'empêche même de manger toute une journée, vraiment c'est pas facile de vivre avec, et je sais même pas comment surmonter ça. Et j'avais aussi une autre question, je voudrais savoir quelle est la différence entre être angoissé ou bien avoir le stress. Vraiment, je vous remercie de m'avoir permis de participer à votre émission.
Et on vous remercie Mamadou pour votre question, justement, ce stress qui bloque, qui paralyse, dans le cas de Mamadou, qui coupe l'appétit, hein, même qui empêche de manger. Et la question, différence entre stress et angoisse?
Eh bien, le stress, c'est le processus normal auquel on est exposé. Mais l'angoisse fait partie. Donc, comme on l'a dit, si l'angoisse gagne du terrain, si on trouve que c'est envahissant, c'est que l'équilibre des forces, je serais tenté de dire, entre ce qui nous stimule ou ce qui nous inhibe, n'est plus respecté. Le stress, ce n'est pas forcément de l'angoisse. Mmh. S'il y en a trop, là, ça devient à part entière une anxiété. Alors peut-être qu'on peut aussi, il y a des personnes comme ça qui ont une anxiété généralisée, une anxiété de fond, qui va s'additionner, qui va interagir encore plus avec ce stress, comme un terrain. Le stress peut se transformer en angoisse et être des angoisses qui sont très fortes, qui sont incapacitantes. Là, il y a nécessité effectivement de le traiter.
Ça veut dire que pour Mamadou, on pourrait lui conseiller d'aller voir un médecin pour en discuter avec lui tout simplement, sans avoir justement de retenue, reconnaître que c'est un vrai problème, parce que s'il s'arrête de manger pour ça, ça peut être dangereux pour sa santé. En discuter avec un médecin justement qui pourrait l'aider à trouver des solutions.
Exactement, parce que ce que Mamadou nous montre, c'est les effets du stress justement sur cette réaction d'adaptation, on a dit tout à l'heure, non spécifique, c'est-à-dire tout le monde va réagir comme ça, mais vous plus, Mamadou, et l'effet du stress sur les viscères, on arrête le système digestif temporairement, et y compris dans le cerveau. On n'a plus faim, on ne mange plus, et si on mange, ça fait mal au ventre. Alors que faire? Manger et de vous forcer, ça ne marchera pas, ça va augmenter, voire même ça va vous donner des nausées. En revanche, boire un petit peu, parce que dans ce stress, on se déshydrate très rapidement, on a très chaud, on consomme beaucoup de calories. Donc s'hydrater va déjà apaiser et ça va faire une sensation de rafraîchissement intérieur. Ça va vous ramener à vous, ça va vous ramener à votre conscience de vous, à votre corps. Ça, c'est déjà une première étape. Boire des petites quantités, évidemment, de manière progressive tout au long de ces phases de stress.
Boire de l'eau en petite quantité.
Exactement. Et puis de voir le médecin.
Et voir le médecin ensuite. Alors on va partir maintenant pour le Sénégal, docteur Chaboch. Message que nous a laissé Mohamed Moustapha.
Bonjour Caroline, bonjour votre invité, bonjour à tous les auditeurs de RFI. Je m'appelle Mohamed Moustapha, j'habite au Sénégal, à Dakar. J'ai 37 ans. J'ai eu à faire un concours à l'école de formation des professeurs et enseignants du Sénégal, FASTEF. Pour la première fois, j'avais eu ma licence et j'ai réussi le concours. J'ai fait la formation jusqu'au bout et le stage jusqu'au bout. Il ne restait que l'examen de sortie. Et à cette période-là, j'ai fait échec ce jour de l'examen de sortie. Depuis ce jour-là, je suis tombé dans la dépression. On m'a interné à l'hôpital pendant un mois. Et je suis toujours à bout de souffle. Alors, je voudrais savoir, est-ce que dépression et stress sont liés?
Alors, tout à l'heure, on avait la question angoisse et stress, et là, dépression et stress, avec cette question de Mohamed Mustapha. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre, docteur Chaboch?
C'est ça, malheureusement, c'est la démonstration qu'on ne peut pas tout supporter, et qu'il y a certains moments où on va être à un point de rupture. Ça, c'est comme si c'était cassé à un moment donné, et ça, c'est l'effet du stress à exposition prolongée, ou à une exposition qui est d'une intensité telle que ça nous déborde complètement. Mais ce n'est pas, Mohamed, parce que vous êtes incapacitant ou que vous n'êtes pas fort. Ou... Non, non, c'est simplement, vous voyez, une digue sur l'eau qui contient. Ben, parfois, il y a une vague qui submerge. Et ça, on n'y peut rien. On n'y peut rien parce qu'on ne peut pas le prévoir. Ou alors, on essaye, mais c'est très difficile. Et là, vous avez vraiment les effets du stress qui casse, qui fait mal, qui empêche. On dépasse l'angoisse. Il y a le stress, l'angoisse qui s'accumule de plus en plus, de plus en plus. Ça nous use, ça consomme nos ressources. Et à un moment donné, on va tellement les dépasser qu'on tombe dans la dépression. La dépression et le stress peuvent être liés, mais plutôt comme une causalité. La dépression, c'est vraiment comme un puits où il n'y a plus d'eau. On n'a plus de ressources, on n'arrive plus à puiser en nous, on n'arrive plus à prendre sur nous. Et on est... Et alors évidemment... Le regard...
Ça reprend ce qu'il disait, à bout de souffle, voilà. Il n'en peut plus.
Et le regard sur soi-même est très négatif, parce qu'on se dit, ben, j'y arrive pas, je suis nul, alors que pas du tout. En revanche, là, c'est nécessaire qu'il y ait un accompagnement pour vous, un suivi, une aide pour reconstruire, à partir de vos valeurs. Là, comme ça, à partir de votre témoignage, j'entends que vous voulez enseigner, vous voulez transmettre. Ben, c'est l'apprentissage. Ben, ces valeurs-là, j'espère qu'elles n'ont pas été complètement abîmées en vous, qu'elles sont encore présentes et qu'elles vous donnent de l'espoir et de l'envie. S'il y a de l'espoir, s'il y a de l'envie, alors il peut y avoir à nouveau un peu de plaisir. Dès lors qu'il y a un petit peu de plaisir, c'est qu'on commence à sortir de la dépression. Et par là, il y a de nouveaux apprentissages, c'est le cas de le dire, une nouvelle manière de faire. Peut-être c'est la méthodologie de travail, peut-être c'est un travail psychothérapeutique pour vous, peut-être... Bon, il y a... En tout cas, c'est intéressant parce que ça peut vous aider à mieux vous connaître. Et là, on en fait quelque chose. Et là, on utilise ce qui vous est arrivé malheureusement, mais on va l'utiliser positivement. C'est un salut. C'est un cap d'horizon positif.
Transformer l'échec en étape.
Exactement.
Docteur Chaboch, échec, dépression, comme en témoigne Mustapha, cette différence entre les deux, souvent, il y a lié à un trouble psychique et ce stress, souvent, ça cohabite ensemble.
Ça peut tout à fait cohabiter et malheureusement, chez certains individus, ça peut ne pas du tout l'être. Alors évidemment, si on a des prédispositions, si déjà on a vécu des épisodes de stress très intenses, des traumatismes, un épuisement, on est sujet, on est fragilisé, on peut en refaire plus facilement. Mais normalement, après avoir traversé des épreuves de vie, nous devrions en avoir un apprentissage, donc des ressources que nous avons acquis en nous. Donc nous devrions être plus forts, plus fragiles, plus sensibles parce qu'on a été touché, et en même temps on a normalement un outillage qui nous aide à avancer. Par contre, il y a des personnes voilà, qui peuvent rencontrer une catastrophe, alors attentat, traumatisme, traumatisme de la vie de tous les jours. Et là, tout d'un coup, c'est sidérant, c'est submergent. Et là, on est tous sur la même base d'égalité. Tout le monde peut être touché.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Et on prend la direction de la République démocratique du Congo. Autre message sur WhatsApp et on retrouve Junior.
Bonjour Caroline, je vous appelle depuis la République démocratique du Congo à Kinshasa. C'est Junior Ndengo. Je suis âgé de 23 ans. Depuis plus de 3 ans, j'ai constaté que mon organisme a un problème. Chaque fois que j'ai besoin de prendre parole en public, je suis en train de stresser autant. Il m'arrive des fois, je perds même les idées que je voulais dire. Non seulement là, étant étudiant en médecine, le plus souvent, les professeurs m'appellent pour prendre part à des interventions chirurgicales. Vous vous retrouvez qu'en pleine intervention, vous pouvez transpirer là, succomber sur les champs et on sort avec vous du bloc opératoire en état malade. Et dans beaucoup de situations, je me retrouve incapable de gérer mes stress. Le plus souvent, même quand on m'a promis une nouvelle avant de me l'annoncer. Cependant, ma question était celle de savoir, y a-t-il un traitement curatif pour ça? Et je voulais encore demander, que devrais-je faire le plus souvent pour maîtriser comment gérer mon organisme face au stress? Merci.
Alors, blocage à nouveau hein, d'un jeune auditeur, docteur Chaboch. Junior perd ses moyens en situation un petit peu critique. Et on entend à la fois, il aimerait, on donne pas de conseils médicaux, de traitement hein, à la radio, bien évidemment, de conseils pour se soigner, puis peut-être même simplement d'une méthode.
Oui, Junior, ça me rappelle mes meilleures années au bloc aussi, d'apprentissage. Je devrais dire cher confrère, cher futur confrère, ça va vous rappeler vos cours, vous démontrer exactement ce qu'on appelle un effet adrénergique, c'est-à-dire lié à l'adrénaline. J'ai le cœur qui s'accélère, j'ai chaud, je transpire, j'ai les mains moites, je perds mes moyens, et si ça dépasse évidemment nos ressources, on peut faire un malaise. Évidemment, quand on est au bloc et qu'on doit assister votre chef et que vous ne pouvez pas bouger, plus il fait chaud, etc. Et ça, c'est très génial, compliqué. Heureusement, il y a des manières de s'en sortir. On a parlé tout à l'heure brièvement des médicaments, on va en parler peut-être un peu après. Ça, c'est un moyen temporaire ponctuel. Pourquoi ponctuel et temporaire, les médicaments? Parce que si on les prend tout le temps, on n'apprend pas à s'en défaire. Donc, on peut créer une adaptation, voire même une dépendance. Et Junior, je espérais, comme tous nos auditeurs, que vous ne serez jamais dépendant d'un médicament, sauf si c'est vital. En l'occurrence, c'est pas vital.
Excusez-moi de vous interrompre. Par information, on ne va pas donner de nom de médicaments, voilà, mais peut-être des classes de médicaments qui sont plus ou moins utiles.
Absolument. Alors, vraiment, dans le stress, on peut avoir recours, il y a trois grandes lignes de médicaments qui peuvent être des antihistaminiques, sauf qu'ils ont un effet sédatif très important. Donc, en général, on est dans le brouillard, ça marche pas très bien. On va les mettre de côté. Il y a les benzodiazépines, qui sont des médicaments anxiolytiques. Mais là, on ouvre la porte à un usage qui peut se pérenniser, continuer. Et c'est pas ce que je vous souhaite du tout, du tout, du tout. En revanche, on peut avoir une autre classe médicamenteuse qui sont les bêta-bloquants. Les bêta-bloquants n'ont pas ou peu d'effet sur le cerveau au long terme. Et sur quoi ça va agir? Mais notamment, Junior, sur cet effet adrénergique. Ça va calmer le cœur, calmer la circulation sanguine. C'est un médicament qu'on peut utiliser de manière tout à fait ponctuelle pour préparer un examen ou pour quelque chose, un événement particulier. Bon. Mais j'ouvrirai aussi une autre porte, évidemment, vous me connaissez un petit peu mieux maintenant, dans le champ de ce que l'on peut faire pour soi-même. Mmh. Et ça, ce que j'appelle les pratiques psychocorporelles, c'est j'apprends de moi à me gérer et en plus, je peux l'utiliser. Mmh. Il n'y a aucune technique miraculeuse, mais il y en a plein qui sont intéressantes à explorer. La sophrologie, l'hypnose, l'acupuncture, le shiatsu, bref, il y en a plein, la méditation, la relaxation guidée. Aucune n'est miraculeuse, je le rappelle. En revanche, il y en a une. Allez, je vais être trivial. C'est comme des chaussures. Ça nous va bien, on aime bien, et on fait équipe avec un bon praticien qui vous met en confiance. Mmh. Et là, vous allez apprendre à gérer ces effets. Vous allez apprendre à les canaliser, et vous allez apprendre à ne plus en être embêté, à ce que vous puissiez en faire quelque chose. On revient à l'apprentissage. Je suis stressé, mais ça me stimule, et je suis encore meilleur.
Alors, on va rester dans cette capitale de la République démocratique du Congo avec ce dernier message. C'est Yvon.
Bonjour Caroline et bonjour à votre invité. Je suis Yvon Isidore Altarboy, âgé de 29 ans. Je vous contacte depuis Kinshasa. En fait, c'est pour partager avec vous un petit témoignage que j'ai vécu dans les années 2017-2018, où à l'époque, j'étais encore étudiant en troisième année de graduat à l'IFASIC. Je devrais préparer mon TFC, le stage, les examens, la défense et la collation. Ce n'était pas facile, une période caractérisée par autant de stress. J'ai fini quand même par vaincre ce stress. Comment? J'avais prévu un agenda très spécifique pour classifier les choses, les tâches que je devrais faire. Et j'accordais beaucoup d'importance à se balader, à prendre du repos et à ne pas beaucoup me focaliser sur ce qui prend beaucoup du temps, mais j'étais un peu en stand-by. Alors cela m'a permis de gérer ce temps et de faire face. Voilà pourquoi j'aimerais dire que le stress, c'est possible d'y s'y prendre.
La méthode Yvon, posée organisée, justement, ça passe par cet esprit d'organisation, docteur Adrien Chaboch, ça peut marcher chez certaines personnes?
Exactement, ça peut tout à fait marcher, ça dépend des personnalités. Alors, par exemple, chez quelqu'un qui est un peu ordonné, dont ça rassure d'organiser les choses. On va pas parler de névrose obsessionnelle, pas du tout, mais de type de personnalité à tendance un petit peu obsessionnelle, eh bien, ça nous montre, évidemment, que Yvon se connaît, a pu ressentir lui ce qui lui serait nécessaire et réagir avec ses ressources. Une autre personne aurait pu réagir différemment. Il n'y a aucune réaction unique et parfaite. Ce qui va compter, c'est de quelle manière moi, en tant qu'individu et dans ma singularité, en tant que moi, je suis différent de toi, je vais réagir. Et c'est intéressant parce que on parle beaucoup de lâcher prise. Mais là, c'est du lâcher prise ou c'est de reprendre prise? Ça, je vous pose la question.
Contrôle.
Finalement, il a repris prise. Exactement.
Alors, des conseils pour faire face à ce stress, comment le gérer? Vous êtes hypnothérapeute, hein, je le disais tout à l'heure en présentation. Est-ce qu'on peut justement évaluer l'effet d'une modification de l'état de conscience pour lutter contre ce mauvais stress?
Oui, parce qu'il y a un point commun. Il y a une réaction dans notre organisme qui est à la nouveau naturelle, physiologique. On a un état d'absorption qu'on appelle en hypnose un état paradoxal, de veille paradoxale, ou un état de transe, ou un état bon, qu'on retrouve pas que dans l'hypnose, hein, évidemment, dans d'autres pratiques, dans la sophrologie, dans la méditation. Cet état-là, on est là et en même temps, on n'est pas là. C'est ce qu'on appelle un état de dissociation induit par la technique de l'hypnose. Cet état nous fait du bien parce que dans cet état, on va avoir une régulation de notre système végétatif. C'est-à-dire, naturellement, sans chercher à le faire, notre corps se calme, s'apaise, relâche. Quelqu'un qui est stressé, avec qui je vais faire une séance d'hypnose, on va tout de suite voir s'il est en état d'hypnose, parce que sa respiration devient plus profonde, devient plus calme, etc. Ce qui est intéressant, c'est que dans des états de stress très aigus, on va avoir aussi un état de sidération, où parfois on est là et pas là. On se sent plus, on perd nos moyens, on est envahi, on est comme dissocié. Parfois, d'ailleurs, les témoignages disent « j'étais là, mais je me voyais de l'extérieur, je me voyais du bout de la pièce, je ressentais rien, j'étais là, je voyais, mais je ne ressentais rien ». Ce sont des états de dissociation différents, puisque dans le cas de la sidération et du stress aigu, il va nous inhiber. C'est une réaction de défense, en fait. On s'absente de notre corps parce qu'on ne peut plus gérer. On s'éloigne mentalement, cognitivement de notre corps, là où il y a un danger. Dans l'hypnose, on va induire cet état, mais de manière naturelle, de manière contrôlée et volontaire, et bénéfique, parce que ça apaise le corps, comme on vient de le décrire. Donc, pour quelqu'un qui aurait un stress aigu, le fait d'utiliser ces pratiques, ces techniques, va lui permettre de mieux se connaître, d'identifier cet état de dissociation, et de pouvoir l'utiliser dans un sens ou dans un autre. Je me dissocie, je peux me ramener à moi.
Alors un autre recours contre le stress, avant de rejoindre une de vos consoeurs à Dakar, c'est le sport, hein, tout simplement l'activité physique. Là, pas besoin de médecin, on n'y pense pas toujours, mais quand on est au bout du bout, eh bien, se défouler et faire marcher son corps, c'est quelque chose qui marche.
Je dirais que c'est quand même assez dingue, je dirais, de considérer qu'on a tellement de ressources naturelles, non payantes, physiologiques, qui nous font du bien, qui coûtent rien, et en plus qui peuvent nous amener à mieux nous comprendre et éventuellement même à rencontrer d'autres êtres humains pour faire des choses avec eux. Le sport répond parce que ça va réguler tous les fonctionnements dont on a parlé. On va générer une bonne fatigue. Combien il y a de personnes qui vont se reconnaître quand je dis, après la séance de sport, je me sens encore plus en forme, en fait. J'étais très fatigué avant et maintenant, je suis en forme. J'ai une bonne énergie, une bonne fatigue. Du coup, on va mieux dormir, naturellement. En tout cas, ça va aider grandement. Ça va réguler le sucre, le cholestérol, la fonction cardiovasculaire, les hormones. Bref, le sport, appropriez-le vous. L'activité physique, c'est ce qui peut grandement, je vais pas dire tout résoudre, mais vraiment, on peut aller très loin avec ça.
On va vous retrouver dans quelques petites minutes.
RFI à Dakar, 92 FM.
On vous donne la parole, docteur Aki Watkan, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes psychiatre au CHU de Fan, neuroanatomiste, enseignante, chercheur à l'UCAD. Docteur, est-ce que le stress est un motif de consultation fréquent dans votre service à l'hôpital de Fan?
Oui, on en reçoit. Il y a des patients qui viennent consulter le plus souvent, mais à un stade où il y a une complication, on va dire. Donc, il y a un trouble anxieux qui s'installe ou bien une dépression.
C'est ce qu'on a entendu tout à l'heure avec deux de nos auditeurs qui voulaient savoir quel était l'impact de ce stress dans ces manifestations d'angoisse ou de dépression. Est-ce que vous avez identifié, docteur, certaines populations, certains groupes de personnes qui seraient vraiment plus vulnérables?
Oui, notamment chez les femmes. Donc, elle nous arrive souvent parce qu'il y a des difficultés pour concilier la vie professionnelle et la vie familiale, en particulier la vie conjugale. Mais également, on a des patients très jeunes qui sont exposés au stress chronique et au finish, ils vont arriver avec une addiction, c'est-à-dire pour essayer de pallier aux effets négatifs du stress, ils auront recours à une consommation abusive de substances psychoactives. Et le plus souvent, c'est le cannabis. Et pour les jeunes, les sujets les plus âgés qui sont masculins, on va dire, eux, c'est l'alcool. Donc, les femmes, ce sera pour une difficulté de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Mm-hmm. Pour les jeunes qui sont de sexe masculin, les garçons, on va dire, ils auront recours pour faire face à un stress chronique à l'usage abusif de substances psychoactives, notamment le cannabis qui est plus accessible pour eux. Mm-hmm. Et pour les hommes qui ont déjà une profession, on va dire qu'ils sont en milieu professionnel et qui sont exposés à ce stress, ils auront recours aussi à une consommation compulsive, on va dire, de substances psychoactives, en l'occurrence l'alcool.
Alors, il y a le stress de la vie et puis il y a le stress des mauvais jours, par exemple quand on est atteint d'une maladie chronique. Comment est-ce que vous faites face justement et comment vous accompagnez ces patients quand ils sont malades chroniques pour limiter le stress, puisqu'on l'a bien compris tout à l'heure en écoutant le docteur Chaboch, ce stress peut avoir un effet encore plus délétère sur la santé.
Effectivement. Il peut y avoir ce stress-là. Donc, surtout quand il y a une incompréhension par rapport à cette maladie qui est chronique. Donc, le patient qui n'a pas reçu suffisamment d'informations par rapport à sa maladie chronique. Et de ce fait, tout effet délétère ou bien toute conséquence à cette maladie chronique sera une effet surprise, sera une contrainte, par exemple les invalidités, la perte d'autonomie, et ça va générer davantage un stress. Tout à l'heure, Dr Chaboch a fait le lien entre le stress et les maladies chroniques. C'est tout à fait existant. Donc, il y a un lien déjà entre maladies chroniques et stress. Maintenant, si l'effet d'incompréhension par rapport à la maladie s'y rajoute, ça devient plus compliqué, plus difficile pour ces sujets-là.
Et c'est essentiel d'aller par l'éducation thérapeutique, faire comprendre la nature de la maladie, expliquer les traitements et leur efficacité.
Exactement, parce que s'ils comprennent bien la maladie qu'ils ont, ça leur permet d'être alertes, d'être plus préventifs, de pouvoir d'accepter et d'anticiper sur d'éventuelles complications. Donc ça va générer moins de stress. Mais toute incompréhension va générer plus de stress et rendre la maladie plus difficile à vivre, aussi bien pour le patient que pour ses proches.
Docteur Watkan, une dernière question avant de vous rendre à vos patients. Dans le contexte de crise sanitaire hein, qu'a traversé une partie du monde et qu'une bonne partie du monde continue de traverser depuis des mois, est-ce que vous avez vu un impact particulier en termes de stress du côté des personnes qui viennent consulter chez vous à FAN?
Oui, bien évidemment, parce qu'avec le confinement partiel, les patients étaient obligés de rester chez eux. Mmh. Et pour certains qui avaient des activités extra-professionnelles ou extra-scolaires pour pouvoir récupérer, se relaxer, se sont retrouvés confinés. Mmh. Donc, ce qui fait que le stress va s'installer davantage. D'autres patients qui nous ont rejoints dans les hôpitaux lors des rendez-vous ont vécu ce stress. Par exemple, une patiente qui vous dit: docteur, est-ce que vous pouvez me voir par téléconsultation, par vidéoconsultation? Et quand on lui demande la raison de sa demande, eh bien, ce patient ou bien cette patiente explique qu'il a peur ou bien elle a peur de l'accoutrement des médecins. Donc, c'est une patiente concrètement qui est venue, qui a vu que la situation a changé à l'hôpital avec le port de masque, de surblouse et tout. ça a généré un certain stress jusqu'à ce qu'elle propose la téléconsultation parce qu'elle n'était pas du tout habituée à cette situation, on va dire. Donc, le stress était bel et bien là. Actuellement, c'est présent plus chez les personnes âgées, puisque maintenant, on a vu la tournure qu'a pris la pandémie et la COVID-19. Donc, ce sont les personnes âgées qui sont à domicile, qui stressent parce que se sentant exposé par rapport, se sentant davantage plus exposé par rapport à cette pandémie.
Au risque du virus.
Donc, le stress est bel et bien présent chez nos patients.
Merci infiniment, docteur, pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes également enseignante-chercheur à l'université Cheikh Diop à Dakar.
RFI.
Dernière partie de cet échange, justement, on va y revenir à ce contexte un peu particulier qu'on vient d'évoquer avec le docteur Watkan. Crise sanitaire, contexte exceptionnel. C'est vrai que énormément de choses ont changé. On parlait là du visuel, du rapport aux autres, à ce fameux masque. Est-ce que c'est facteur de stress? Je connais la réponse, mais je vous la pose quand même, docteur Chaboch.
Non. Oui, bien sûr que oui, évidemment, bien sûr, c'est tout est résumé en fait dans cette situation. C'est-à-dire, des virus, on en a, on en connaît, on en a plein, l'humanité en a croisé bon nombre, des pandémies, on en a croisé bon nombre. Mais là, dans cette situation, il y a quelque chose d'autre qui se passe, c'est aussi la manière dont on l'intègre dans notre réel. Et je salue tout à fait ma consoeur tout à l'heure qui nous rappelle à quel point il est nécessaire de ramener un processus de cognition, c'est-à-dire de conscience. La Covid-19 est vraiment la démonstration de ce que cela représente comme ébranlement de notre organisation, de notre désorganisation, d'une confrontation à une situation d'adaptation qui n'est pas juste ponctuelle, mais qui en plus s'étale sur des mois et des mois. Donc il y a un stress ambiant qui est inévitable, c'est normal, puisqu'on cherche une adaptation. On cherche un vaccin, on cherche à se protéger, on ne sait pas comment, on a de l'incertitude. Il y a une citation de De Musset qui disait « Le pire, c'est l'incertitude, c'est le plus dur à gérer. Le masque, pas le masque, la distance, pas la distance, est-ce que je sais, est-ce que je ne sais pas, est-ce que tu es contaminé, est-ce que tu n'es pas contaminé ?» Et là, on en arrive, ce que vous avez sous-tendu, Caroline, c'est le lien à l'autre. Le lien à l'autre, on est dans la distance, on essaye de se voir, mais parfois on ne peut pas, parfois on craint l'autre, parfois c'est nous-mêmes, on se met en retrait. Et là, il y a quelque chose qui a à voir avec l'humanité, avec, je dirais, même l'humanisme. Dans le stress, c'est notre rapport à nous, notre rapport à l'extérieur. On parlait de stress interne, de stress externe. Bah, de vous à moi, comment fait-on pour maintenir ce lien et nous apaiser mutuellement? Il y a peut-être un salut d'apaisement plutôt que en France, on a beaucoup travaillé sur les éléments de langage. C'était pas distance de protection, mais comment trouver les bons mots pour que ce soit pas de l'éloignement, de la séparation.
Distanciation sociale, distanciation physique, par exemple.
Exactement.
C'est important de garder le lien, on l'a bien compris. Et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours avec vous. On vous remercie beaucoup. Merci pour toutes ces explications, docteur Adrien Chaboch. Je rappelle que vous êtes psychothérapeute, cofondateur du Centre Vitruve à Paris. Et on vous retrouve bien sûr très bientôt dans Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et ce contexte de crise sanitaire, on en reparle puisque la rentrée scolaire, c'est donc demain pour la plupart des élèves en France. Pas comme les autres, le port du masque rendu obligatoire à partir du collège, y compris pendant la récré. Protocole sanitaire qui s'est précisé. Alors que la semaine dernière, plusieurs associations de pédiatres avaient lancé un appel à la clarification des règles. Pour en parler, on vous retrouve, docteur Fabienne Cochère, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la présidente de l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Lettre ouverte, vous avez demandé des précisions. Est-ce que depuis, vous avez été entendue?
Oui, tout à fait. Nous avons effectivement été entendus et les mesures qui ont été prises pour la reprise de l'école à partir de demain correspondent tout à fait à ce que nous avions demandé, à savoir que nous souhaitons que cette rentrée se fasse dans le calme, sans stress. Et nous voulons avant tout rassurer les parents, les enseignants, les enfants. Ce nouveau coronavirus que nous ne connaissions absolument pas en début d'année, maintenant nous savons que les enfants ne sont pas cibles de ce virus. ils sont à la fois peu malades, peu contagieux entre eux, peu contagieux envers les adultes. Le retour à l'école doit se faire pour tous et il faut surtout que les écoles puissent rester ouvertes et que, en cas de survenue d'un cas dans une école, les écoles ne referment pas.
Alors, protéger les enfants, justement, protéger les enfants, c'est les maintenir à l'école, c'est vraiment le message central. Mais à côté de ça, on peut améliorer certains pans de la prévention, notamment en termes de tests, notamment en termes de vaccination, et les pédiatres insistent aussi sur ces points-là.
Tout à fait. Toutes les viroses chez l'enfant se ressemblent, les signes sont peu spécifiques. Et nous, ce que nous préconisons, c'est de vacciner les enfants pour pouvoir éviter toutes les pathologies qui peuvent être prévenues par la vaccination.
Notamment la grippe et le rotavirus. Hein. Ce sont deux vaccins qui, aujourd'hui, ne sont pas au calendrier obligatoire.
Tout à fait. Cela commence par le rotavirus pour le petit nourrisson. Le rotavirus est particulièrement redoutable pour les petits nourrissons et nous recommandons, nous pédiatres, que l'ensemble des nourrissons soient vaccinés contre cette infection, en plus des vaccins du calendrier obligatoire.
Qui peut déboucher sur des gastro-entérites.
Voilà, le rotavirus est à l'origine des gastro-entérites les plus sévères du petit nourrisson. Gastro-entérites qui peuvent être source de déshydratation et qui conduisent ces petits nourrissons à l'hôpital, aux urgences, ce qu'il faut éviter en cette période de pandémie.
Docteur Cochert, moi, il y a un point sur lequel je voudrais qu'on insiste ensemble, c'est sur l'hygiène à l'école. On dit aux enfants retourner à l'école, mais encore faut-il qu'il y ait les dispositifs présents. Le masque, on sait que tous les enfants en auront. Moi, j'ai une grande question, c'est sur le savon dans les sanitaires. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu des assurances de la part du corps enseignant, du ministère de l'Éducation nationale, pour qu'enfin, les toilettes des enfants dans les écoles soient dignes et équipées?
Nous, les pédiatres, nous avons d'ailleurs à un certain moment évoqué cette problématique en disant que pendant les vacances, il faudrait peut-être faire passer des plombiers dans les établissements. Mmh. Les mesures barrières préconisées pour les petits se reposent surtout sur l'hygiène rigoureuse des mains.
Le lavage des mains.
Effectivement, il faut que les enfants puissent tous avoir accès à des points d'eau, à du savon et à du papier à usage unique pour s'essuyer les mains.
Et ça, c'est vraiment un message qu'il faut faire passer aux établissements, aux chefs d'établissement, pour que les personnels de service, comme les enseignants et enseignantes, puissent accompagner les moments pour les enfants pour ces moments très importants d'hygiène. Merci infiniment d'avoir répondu à nos questions, docteur Fabienne Cochert. Je rappelle que vous présidez l'Association française de pédiatrie ambulatoire. Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui chaque jour fabrique, réalise votre émission. Ophélie Lassène et Juliette Bro, Steven Elsley et Donatien Cahu. Demain dans Priorité Santé, nous allons parler de ces produits a priori anodins. On les retrouve à la cuisine notamment, qui peuvent avoir des effets néfastes pour la santé, à la cuisine et au marché. Le kaolin, le citron, le manioc. Quelle pratique, quelle consommation éviter? On se retrouve demain avec nos invités pour en parler. D'ici là, portez-vous bien et on ne le redira jamais assez, lavez-vous bien les mains.
C'était Priorité Santé avec les sociétés Suno Assurance qui, au Mali et en Centrafrique, ont fusionné avec les sociétés Alliance et portent désormais la dénomination Suno Assurance. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.